Gloire au Seigneur, c'est une joie de vous retrouver, tous réunis ici pour la joie du Seigneur, la vôtre, la nôtre, et tous ensemble nous pouvons dire merci ô Dieu, parce que tu es vivant, tu es puissant, tu es agissant. Oui, nous croyons que Dieu n'a pas fini de donner des bénédictions, elles ne sont pas épuisées, elles n'arrivent pas à leur terme, le Seigneur est éternel, alléluia. Que son nom soit béni. Nous allons faire une lecture ce matin dans l'Ancien Testament, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 19, deuxième livre des Rois, chapitre 19, et au verset 14 jusqu'à 20. 2 Rois 19, 14 à 20. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Bon, je ne lis pas tout ce qui est avant. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre, Éternel. Incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib qui a envoyé Rabshaké pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations, ravagé leur pays, qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu, mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre. Et ils les ont réduits à rien. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Alors Esaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Est-ce que nous pouvons dire ce matin la même chose? Seigneur, tu as entendu la prière que nous t'avons adressée. Est-ce qu'elle n'atteint pas le plafond? Le plafond est haut, c'est vrai, il est beau. Mais le Seigneur entend nos prières au-delà de ce plafond. Nous pourrions être dans la nature, nous pourrions être dans notre chambre, et nous pourrions même parfois peut-être être à l'hôpital avec toutes sortes de difficultés, mais le Seigneur entend notre prière. Il a bien entendu celle de Jonas quand il était dans ce grand poisson, qui n'était pas une baleine, mais dans ce grand poisson, eh bien Jonas a pu s'adresser à son Père, à Dieu, et Dieu a répondu à sa prière. Est-ce que vous croyez ce matin que Dieu est capable de répondre aussi à nos prières? J'espère que oui. Alléluia, béni soit son nom. Nous allons voir ce matin un peu ce que sont parfois les lettres de l'ennemi. Oh, nous avons un grand écrivain en la personne de l'ennemi de nos âmes. Il est très fort pour nous présenter les choses. Ne croyons pas qu'il va venir à nous avec, comme on le représente parfois, avec des cornes, avec un regard épouvantable. Il vient à nous comme il a fait avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Oui, ce n'était pas un diable comme certains le présentent. C'était un séducteur. Et ce qu'il fait encore de nos jours, eh bien, c'est il excelle dans la séduction. Alors, les lettres de l'ennemi ne sont pas forcément des lettres épouvantables. Cher monsieur, chère madame, chers amis, voilà, je vous écris pour vous dire ceci, pour vous dire cela. Il y a une invitation pour vous, il y a une invitation pour chacun d'entre nous. Mais ces lettres, au fond d'elles-mêmes, sont des lettres terribles parce qu'elles nous conduisent bien loin de l'Éternel, notre Dieu. Notre Dieu vient à nous aussi avec amour, beaucoup plus d'amour parce que l'ennemi n'en a point. Alors c'est facile. L'ennemi n'a aucun amour pour nous. Il a une façade, c'est vrai. « Oh, je t'aime, oui, bien sûr, je t'aime. » Mais par derrière, eh bien, il nous frappe. Par derrière, il vient nous apporter toutes sortes de détresses et de misères, de choses horribles. Non, l'ennemi ne nous aime pas, mais Dieu nous aime. Dieu nous aime d'un amour éternel. Alors, quelles sont ces lettres que l'ennemi pourrait nous apporter ou nous envoyer? Là, ce n'est pas la poste. Ne cherchez pas demain matin s'il y a une lettre de l'ennemi à votre courrier. Ce n'est pas cette poste-là, mais il y a une autre poste, c'est celle du ciel et ou bien celle de l'enfer. Et ces lettres peuvent nous arriver d'une façon parfois déguisée. Alors, là, nous voyons dans le passage que nous avons lu, il y a eu une... On n'a pas lu tout, bien sûr, c'est un peu long. Dans le chapitre 18, 19, tout cela, eh bien, ces hommes se sont opposés à Ézéchias, opposés au peuple d'Israël, opposés à Dieu. Et il y a eu de toutes sortes d'insultes qui sont venues contre le peuple de Dieu. Et si on regardait dans 2 Chroniques, chapitre 32, verset 17, il est aussi là question de la même chose. Il est dit, Sanchérib envoya une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël. Est-ce que nous pouvons supporter de telles paroles? Une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël? Est-ce que nous n'allons pas, nous aussi, réagir s'il y a des choses tellement insultantes contre notre Dieu? Quand nous sommes au travail, il y a bien des choses qui nous chagrinent parfois. On entend les gens qui jurent, les gens qui nous... Ça nous fait pas la même chose, ça nous transperce quand on entend les gens jurer contre Dieu. Alors, eh bien, il faut qu'il en soit ainsi, parce que nous avons à défendre la cause de notre Sauveur aussi. Le Dieu d'Ézéchias, va-t-il dire, ne délivrera pas son peuple de ma main. Vous rendez compte, quel orgueil cet homme a pour dire de telles choses. Il ne vous délivrera pas, il ne délivrera pas son peuple de ma main. Je suis le plus fort, je suis l'empereur, je suis tout ce que vous voulez, je suis le surhomme. Voilà ce que va dire au fond cet homme. Sanchérib était un homme rempli de choses mauvaises. Et le but de ses paroles, eh bien, était d'effrayer le peuple de Dieu. Et dans Néhémie, on trouve aussi un peu des choses semblables. Néhémie chapitre 6, verset 19. Là, c'est un ammonite. C'est Tobija. Tobija envoyait des lettres pour m'effrayer. Eh oui, ce n'était pas pour, comment on peut dire, pour attirer, là, à ce moment-là. Ce n'était pas très séducteur dans ce domaine. Mais des lettres pour m'effrayer. Il y avait la construction de la muraille de Jérusalem. Tout allait bien, alléluia, tout allait bien. Oh, non pas qu'il n'y ait pas eu des problèmes, il y en avait. Et si nous sommes dans l'Église du Seigneur, eh bien, le fait que nous y soyons, eh bien, il y aura des problèmes. Ah, non, je ne suis pas méchant. Il y a des problèmes parce que j'y suis. Il y a des problèmes parce que mon frère y est. Il y a des problèmes parce que des amis y sont aussi. Mais c'est vrai que nous ne sommes pas parfaits. Ah, il n'y a pas Saint Jean-Paul. Non, il y a Saint Jean peut-être, il y a Saint Paul, mais il n'y a pas Saint Jean-Paul, ça n'existe pas. Alors, eh bien, il y a des lettres pour m'effrayer et l'ennemi va chercher à nous les envoyer de temps à autre aussi. Vous savez ce que signifie Tobija? C'était un ammonite, mais son nom signifie « l'Éternel est bon ». Alors ça, c'est quand même étonnant. L'Éternel est bon dans la vie de cet homme Tobija qui était contre le peuple de Dieu. L'ennemi est trompeur, hein, et cherche par tous les moyens à s'infiltrer pour essayer de nous troubler. Ah, ce sont des lettres de condamnation, bien sûr. L'ennemi ne va pas nous féliciter constamment quand nous, le matin, nous nous levons et que nous prions le Seigneur, ou bien que nous ouvrions la parole de Dieu, eh bien, il ne va pas nous féliciter, il ne va pas nous dire « tu fais bien là ». Non, non, il va nous présenter autre chose. Écoute, tu as ceci, tu as cela, tu n'en as pas le temps, tu peux faire autre chose. Ah, les lettres de condamnation de l'ennemi sont vite là. Dans Esther, chapitre 3, verset 12, vous vous souvenez du livre d'Esther pour la plupart, Haman, l'ennemi des Juifs, fit écrire des lettres scellées avec l'anneau du roi pour que tous les Juifs soient assassinés, soient tués. Haman avait commencé à prendre le pouvoir. Il était vraiment un ennemi très rusé. Il cherchait par tous les moyens à s'accaparer du pouvoir. Et cela, nous le voyons dans ce monde aussi. Il y a des intrigues, il y a des choses semblables. Et voilà que Haman, eh bien, va arriver à ce qu'il ait des lettres scellées avec l'anneau du roi pour que tous les Juifs soient tués. Et dans Esther chapitre 5, un peu plus loin, verset 14, il nous est dit qu'il n'y a pas là, bien sûr, de lettres écrites, mais il nous est quand même dit la famille et les amis d'Haman. Il avait quand même des amis, vous vous rendez compte, c'est terrible, hein. Ils étaient tous dans l'occultisme, on peut dire, dans des choses mauvaises. La famille et les amis d'Haman voulaient que l'on demande au roi Assuérus de faire pendre Mardoché, qui était l'ennemi numéro un pour Haman. Il ne pouvait pas supporter Mardoché, qui aimait l'Éternel de tout son cœur et qui voulait la gloire de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Alors ça, pour Haman, c'était quelque chose d'horrible. Il fallait éliminer Mardoché. Mardoché, c'était l'ennemi numéro un. Est-ce que ce matin, vous vous sentez peut-être l'ennemi de l'ennemi? Eh oui, c'est vrai, l'ennemi de Satan. Eh bien, nous en faisons partie de ces gens-là. Nous sommes aussi des ennemis parce que lui ne peut pas supporter que nous louions le Seigneur. Alors, il voulait faire pendre Mardoché à un bois haut de 50 coudées, ce qui fait à peu près 25 mètres. Je ne sais pas quelle est la hauteur de votre salle. Quelqu'un le sait? Enfin, le plafond. Mais 25 mètres, vous rendez compte ce que ça fait. Quand vous êtes dans un appartement classique, je dirais, ça fait à peu près 2,50 mètres, un peu plus peut-être, je ne sais pas. 2,50 mètres, le plafond. Alors, 10 fois cela, c'était quand même haut. Ce bâton qui était, ce bois qui était mis là, debout, et on devait y pendre Mardoché. Satan, mais il n'a pas été pendu, hein, rassurez-vous. Satan n'écrit pas toujours, même pas toujours des lettres. Il envoie des influences mauvaises. Ah, mais c'est beaucoup plus subtil que d'envoyer des influences mauvaises. On mélange un peu tout, ça fait une bonne soupe. On mélange toutes sortes de légumes et puis tout ça. Et puis on met dans tout cela une petite dose de poison. Et alors, eh bien, tout le monde est empoisonné. Eh oui, il y a des influences mauvaises sur ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et même parfois ceux qui le connaissent, malheureusement. Il n'a pas écrit à Jésus, l'ennemi. Mais il l'a convoqué au désert pour la tentation. Même s'il a été conduit par l'Esprit dans ce désert, il est dit dans Matthieu, chapitre 4, verset 1, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Ça semble incroyable, le Fils de Dieu, amené par l'Esprit de Dieu dans le désert, pour être tenté par le diable. Ça donne des frissons, n'est-ce pas? C'est vrai, notre Sauveur a été tenté comme nous pouvons l'être aussi ici-bas. Il est passé avant nous, et bien souvent, les chefs, les vrais chefs, passent avant les soldats. Quand c'est vraiment un chef, eh bien, il est aussi devant. Il est un ouvrier de première classe. Et oui, notre Sauveur a été toujours devant nous pour nous guider et pour nous montrer ce par quoi nous aurions à passer comme problème aussi. Jésus se confiait en son Père et il lui confiait toutes choses. il se confiait, il lui disait tout ce qu'il avait sur le cœur, parce qu'il était Dieu aussi. Et oui, Jésus, même sur la terre, eh bien, n'avait pas abandonné cette position. Il se confiait en son Père. Il lui confiait tous ses problèmes. Ce matin, si vous avez des problèmes, mais non, vous n'en avez pas, hein, aucun problème, tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien, mais si on va en profondeur, en enlevant le vernis, petit à petit, on se dit, mais tout ne va pas si bien que cela. Il y a des difficultés dans la famille, il y a des difficultés même peut-être parfois dans certains groupes. Mais le Seigneur sait ce qui se passe exactement et on peut tout lui confier. Oui, il y a un chant qui disait « Dis tout à Jésus ». Je pense que vous l'avez chanté autrefois et peut-être même maintenant, je ne sais pas. « Dis tout à Jésus ». Et je crois que l'on peut lui dire absolument tout. Le Seigneur ne se vexera pas. Le Seigneur ne se tournera pas de l'autre côté. Si vous lui parlez de ce côté, il vous regardera de toute façon. Et il viendra pour écouter votre prière. Satan n'a pas envoyé de lettre à Job non plus. Ah non, on ne voit pas de lettre que Job ait reçue. Vous allez me dire, les lettres à l'époque, c'était un peu spécial, c'était différent de maintenant. Mais Job n'a pas été interpellé, je dirais, par Satan lui-même au départ. Et Job n'était même pas au courant de la discussion qu'il y a eu entre Satan et Dieu. Ça, c'est, on peut le lire. Bon, on ne voit peut-être pas exactement comment ça s'est passé, mais dans Job, chapitre 1er, Job chapitre 1er, verset 6. Voyons. Je croyais avoir gardé la page, mais je n'ai pas gardé. Alors, verset 6 à 12. Voilà ce qui est écrit. Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Ah, c'est incroyable. Satan vint aussi au milieu d'eux. Il y avait les fils de Dieu qui étaient là. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Eh oui, Satan vient voir un peu ce que nous faisons. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? J'espère que nous n'aurons pas à mettre notre nom et notre prénom, parce que c'était tellement difficile pour Job. Il a vécu des choses très, très difficiles. Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Alors de ce côté-là, on est d'accord, on a envie d'y être. « C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main et touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. » Ouh, c'est dur ça. « Je te le livre, seulement, il n'y a quand même un seulement, merci Seigneur, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, et après il allait commencer son travail de destruction. Et oui, c'est pour Job, ça a été bien, bien difficile là. Mais il n'était pas du tout au courant de ce qui allait se passer. C'était une conversation entre Dieu et Satan, entre Satan et Dieu. Comment réagir donc face à ces attaques que nous pouvons avoir ? Eh bien, tout confier à Dieu et pas aux hommes, en tout cas pas. Je ne sais pas, vous avez des amis, j'espère. On en a tous, hein, des amis. Mais est-ce que parfois nos amis ne nous ont pas trompés, ou bien pas trompés, c'est un grand mot, ne nous ont pas déçus ? Parfois, eh bien, nous disons, mais qu'est-ce qu'il a pensé, cet ami ? Qu'est-ce qu'il a fait alors que je ne lui ai fait aucun mal, alors que ceci, cela. Moi, je me sens pas coupable, et puis voilà qu'il m'accuse. Enfin, il peut y avoir plusieurs choses. On peut avoir des amis, on peut confier même certaines choses à des amis. Mais à Dieu, on peut confier toutes choses. Alléluia. Et ça, c'est bon parce que la prière est quelque chose de formidable. On peut dévoiler son cœur au Seigneur. Bien sûr qu'il voit tout ce qui se passe dans notre cœur, mais il aime nous entendre. Est-ce que vous, parents, vous n'aimez pas entendre vos enfants vous parler? Si vous aviez à la maison un enfant qui ne parle jamais, bien sûr, il peut y avoir des choses dramatiques à cause de maladies, ça c'est autre chose, mais autrement, un enfant qui n'a aucun problème spécialement, eh bien, dans la maison, eh bien, il doit parler, il doit se manifester. Nous, on a un petit-fils qui vient à la maison dans la semaine, il nous cause presque pas. Alors, mais vous allez savoir pourquoi, c'est qu'il a ses tablettes. Ah, il a ses tablettes. Et c'est ça, on regarde, on est tout le temps là-dedans, on n'arrête pas. Bon, nous, on ne comprend rien dans tout cela, on ne cherche pas spécialement. Eh bien, on est des grands-parents, on n'est pas les parents. Et puis les tablettes, eh bien, pour nous, c'est quelque chose qui les détruit. Mais il faut essayer de comprendre aussi l'époque actuelle, c'est difficile. Mais en tout cas, cet enfant, eh bien, ne nous parle presque pas, parce qu'il est toujours dans un autre monde. Il est toujours soit avec des amis, soit il cherche à parler à ses amis. Oh, bien sûr, c'est des choses qui nous font mal, mais il faut pouvoir tout confier à ses parents. Bien sûr que l'enfant a son petit domaine, et ça, on ne peut pas lui enlever, c'est quelque chose de formidable même. Il a son domaine à lui, il se réjouit dans son domaine, il n'a pas les mêmes pensées que les adultes, c'est sûr, mais voilà, eh bien, il faut aussi qu'il puisse s'ouvrir à ses parents, et vice-versa. Mais tout confier à Dieu, eh bien, c'est là la solution. Alors, dès que, on revient à ce passage, dès qu'Ézéchias a lu la lettre de Sanchérib, le roi d'Assyrie, il monte à la maison de l'Éternel. Ah, quelle réaction bénie! Il monte à la maison de l'Éternel. Ça nous arrive, bien sûr, de monter à la maison de l'Éternel. Et Salomon avait demandé à Dieu, dans 1 roi, chapitre 8 et le verset 30, « Daigne exaucer la supplication de ton serviteur, donc c'est Salomon, et de ton peuple d'Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. » Alors, dans cette maison de l'Éternel, il y avait toutes ces promesses-là, que Dieu pouvait pardonner, pouvait vraiment exaucer la prière. Et là, eh bien, il y a eu cette présentation des choses. Il a lu, donc il est monté à la maison de l'Éternel, et puis il va déployer la lettre devant l'Éternel. On peut s'imaginer, ça fait presque un film, là. Hein? Tout à coup, hop, Seigneur, je suis là. Seigneur, j'arrive, je suis là, et j'ouvre la lettre. Je ne t'explique rien de plus, Seigneur, tu sais toutes choses. J'ouvre la lettre, regarde les insultes que l'ennemi est en train de lancer contre toi. Incline ton oreille, comme si Dieu n'écoutait pas. Incline ton oreille, hein, il entend nos prières. Éternel, ouvre les yeux, comme s'il ne voyait pas. Regarde, Seigneur, regarde. Hein, regarde aussi dans mon cœur, Seigneur. Tout ce qu'il y a dans mon cœur, ouh, c'est difficile parfois. Seigneur, non, là, il y a un petit coin, il ne faut pas que tu regardes. Hein. Eh oui, mais j'aimerais bien regarder partout dans ton cœur. Parce que quand un médecin ausculte, je ne sais pas si un médecin au milieu de nous, ausculte ses patients, eh bien, il faut parfois un certain moment pour qu'il puisse tout regarder, tout ce qui se passe. Mais parfois, il ne trouve pas, mais Dieu, lui, sait exactement ce qu'il y a dans notre cœur. Mais il veut voir notre ouverture d'esprit aussi. Regarde, Seigneur, maintenant. Ah oui, ouvre les yeux, regarde, incline ton oreille, écoute. Écoute, 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 ça va loin. Ça part loin, écoute, comme un écho. Le Seigneur fait partir nos prières. Elle ne reste pas à côté de nous. Vous n'avez jamais vu de prière à côté de vous à la fin de la réunion de prière. Il n'y en a point qui sont là, restés. Non, elles sont toutes parties vers le Seigneur. Du moment où vous adressez à Dieu, il entend et il regarde. Nous devons décharger vraiment de tous nos fardeaux. Tous nos fardeaux. Et mais bien sûr, c'est tellement mieux quand on veut porter absolument toute chose. Alors, eh bien, je me charge du sac à dos, je me charge de, comme les enfants aussi de nos jours, je vois les enfants qui sont au début du collège ou même à l'école primaire, ils se chargent de choses lourdes, lourdes, très lourdes. Ils ont des sacs épouvantables. Le petit-fils qui est à la maison, il commence au collège, eh bien, il a un sac, mais qui est lourd. Le grand-père, il arrive juste à le porter. Eh oui, c'est vrai. Et quand après, on arrive à l'université, on a un tout petit truc, une toute petite feuille. Alors voilà, j'arrive à l'université, et puis voilà, ben, j'ai tout dans la tête, peut-être. En tout cas, je n'ai pas un gros sac, et je me suis déchargé un peu de tous ces fardeaux. Bon, ça, c'est une image un peu rapide. Mais c'est vrai qu'il faut nous décharger de tous nos fardeaux. L'ennemi se plaît de nous mettre toutes sortes de fardeaux. Le petit-fils avait même dans son sac un dictionnaire, vous vous rendez compte? Un dictionnaire Larousse ou autre. Un dictionnaire, mais c'est gros, c'est lourd, dans son sac. Ah ben, que le Seigneur le bénisse, parce qu'une fois qu'il aura appris tout ce dictionnaire, il connaîtra pas mal de choses aussi. J'ai, dans 2 Rois, chapitre 19, on l'a lu tout à l'heure, verset 20, 2 Rois, parce qu'on a lu 19, 20, oui, c'est ça. Il est dit, j'ai entendu ta prière, je l'ai entendue. Ah, Seigneur, tu l'as entendue. Alors, tu ne vas pas la laisser de côté, tu vas répondre, Seigneur. Eh oui, le Seigneur va répondre. Ézéchias et le prophète Ésaïe se mettent à prier à ce sujet et ils crient au ciel. On trouve cela aussi dans Ésaïe, chapitre 37. C'est la même chose qui nous est rapportée. Et c'est une prière qui monte vers Dieu. Elle est bien développée. Ésaïe 37, si vous pouvez le lire à la maison. Dans Jérémie, chapitre 11, verset 20, « C'est à toi que je confie ma cause. » Alors, il n'y a pas d'intermédiaire. Hein? « Seigneur, c'est toi, mon sauveur, alors je te confie ma cause. » Et celle des autres, parfois. Dans le psaume 62, verset 9, « Répandez vos cœurs en sa présence. » C'est beau, hein? « Répandez vos cœurs en sa présence. » Comme une eau qui arrive, pas un tsunami, non, ces choses horribles dont on entend parler ces temps-ci en plus. Non, pas un tsunami. « Répandez vos cœurs en sa présence. » Faites-vous du bien dans la présence de Dieu. Ah, quand le Seigneur veut parler, il peut parler. Oui, mais il faut que je sois prêt. Il faut que j'aie le vêtement du salut, il faut que j'aie le vêtement de la sanctification, il faut que je puisse réellement laisser la place au Seigneur. Il y a une autre version qui dit « Confiez-lui ce qui vous préoccupe ». Ça, c'est une bonne traduction, je trouve. « Confiez-lui ce qui vous préoccupe ». Il y a beaucoup de choses qui nous préoccupent. « Oh, mon chef, il est ceci, mon chef, il est cela. » J'ai rien contre les chefs, il en faut. Et béni soit le Seigneur pour tout ce que Dieu peut faire, même dans notre travail. Parfois, c'est difficile, mais le Seigneur veille. Dans 1 Samuel, chapitre 1er, verset 15, là, il est question de Anne, qui dit à Élie, le sacrificateur, qui ne comprenait rien à rien de toute l'histoire qu'elle était en train de vivre. Elle priait dans son cœur, et bien le sacrificateur l'a regardée et s'est dit, mais elle est ivre, qu'est-ce qui lui arrive? Elle parle comme ça, on ne sait pas à qui. Non, elle va dire, je répandais mon âme devant l'Éternel. Je répandais mon âme. Oh oui, c'est comme cette eau qui arrive. Je répands mon âme devant l'Éternel. Alléluia. Et là, la bénédiction a été sur elle d'une façon glorieuse. Dans le psaume 142, verset 3, il est dit, je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Oui, on peut repenser à « Dis tout à Jésus ». Hébreux, chapitre 4, verset 16. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » On n'est pas obligé de dire chaque fois, Seigneur, est-ce que je peux avancer d'un mètre? Non. Approche-toi. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous, dit le Seigneur. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et dans Actes chapitre 4, verset 29, il est dit maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Alors là, c'était difficile, parce qu'il y avait eu la bénédiction du baptême dans le Saint-Esprit, la bénédiction de la Pentecôte. Oui, c'est vrai. Et puis, après, il y a eu la persécution, bien sûr. Seigneur, vois leurs menaces. Ils sont menacés de mort, ces disciples. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Quand on voit nos frères et sœurs qui sont, j'entendais les prières tout à l'heure pour les frères et sœurs persécutés, eh bien, c'est vrai que nos frères et sœurs dans certains pays sont persécutés horriblement. C'est terrible, ils sont mis plus bas que terre, ils sont dans leur corps, dans leur âme, ils n'ont presque plus rien qui soit entier, je dirais. Et voilà qu'ils ont quand même cette faculté de louer le Seigneur, de dire « Seigneur, merci parce que tu bénis nos bourreaux, tu bénis ceux qui nous font du mal et tu les sauves ». Ah oui, savez-vous qu'en Corée du Nord, eh bien, il y a tous ces gens qui sont dans les prisons, prient pour leur président. Eh oui, et nous savons que Dieu est celui qui entend les prières de ceux qui souffrent. Alléluia, béni soit le Seigneur. Oui, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Pas simplement les pasteurs, pas simplement ceux qui sont avec des jambes de jeunes hommes ou de jeunes filles, non, mais ceux qui peuvent encore faire une petite chose même. Oh, je ne pourrais pas, bien sûr, faire des 100 mètres avec les jeunes maintenant. Et c'est vrai, mais il y a des choses que l'on peut faire quand même. Le Seigneur ne demande jamais l'impossible. Il nous demande d'avoir la foi, c'est sûr, mais il nous demande d'utiliser ce que nous avons, que nous puissions le donner aux autres. Alléluia. Prendre courage par la foi et redire les promesses de l'Éternel, c'est important. Il est dit dans 2 Chroniques, chapitre 32, versets 7 et 8, « Fortifiez-vous et ayez du courage. » Oh, ce n'est pas dit « fortifiez-vous, prenez telle ou telle médication. » Non, « fortifiez-vous dans le Seigneur. » Et ayez du courage dans le Seigneur, parce que ici-bas, on peut avoir du courage pour faire du sport, pour faire autre chose, mais dans le Seigneur. Ne craignez rien et ne soyez pas effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Oui, parce qu'il n'était pas seul, le roi d'Assyrie, il avait ses copains, hein. Il avait ses armées, il avait tous ceux qui était là et qui n'attendait que le feu vert. Et quand le feu vert se mettait, quand le rouge devenait orange et que le feu vert allait apparaître, les armées étaient prêtes. Oui, elles étaient prêtes. Et ils allaient attaquer. Non, devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que je me rends compte? Avec Dieu, il y a plus qu'avec l'ennemi de nos âmes. L'ennemi va essayer de nous abattre, il va essayer de nous frapper. Et voilà que, eh bien, il y a plus avec Dieu qu'avec l'ennemi. Heureusement d'ailleurs, avec lui est un bras de chair. Oui. Et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera. Il nous aidera et il combattra pour nous. Alléluia. Oui, il combattra pour nous. C'est vrai, je crois que le Seigneur est capable de faire cela. Quand on voit Élisée et son serviteur, qui ne voyaient pas peut-être plus de choses que nous, je dirais que nous ne voyons pas tellement plus de choses que le serviteur d'Élisée aussi. Il y a l'ennemi qui est en face et nous ne savons plus que faire. Nous sommes effrayés et nous disons, mais Seigneur, Il est en face, il est là à côté, cet ennemi. Et qu'est-ce que nous ferions en face de toutes ces armées, en actualisant de tous ces tanks, de tous ces avions, de toutes ces choses? Et que ferions-nous? Et Élisée lui dit au Seigneur, ouvre les yeux de ce serviteur pour qu'il voie. Ah, Seigneur, que je puisse voir ta gloire. Et alors, je pourrai aller, je pourrai continuer ma route. Si je vois ta gloire, Seigneur, eh bien, je sais que tu m'aideras. Je peux tendre la main et tu prendras ma main. Ah oui, le Seigneur nous a promis tout cela. Et dans Juges, chapitre 6, verset 14, Dieu dit à Gédéon, vous savez, ça c'est un verset qu'une dame m'a donné une fois. J'étais allé chez elle et puis elle m'avait préparé cela sur, comment on appelle ça, un petit tableau qu'on met au mur, quoi. Et puis, elle m'avait mis ce verset à pyrogravé. Et j'étais content de voir cela, parce qu'elle ne connaissait pas grand-chose de moi. Moi, je connaissais un peu sa vie, qui était droite devant Dieu. Mais elle m'avait mis ce verset. « Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Ouh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Va avec cette force que tu as. Mais Gédéon s'est dit, mais quelle force que je peux avoir? Je ne sais pas comment il était bâti, s'il était grand, s'il était petit, s'il était rapide, s'il était, bon, c'était sûrement quelqu'un de vaillant. Mais cette force que tu as, c'est rien par rapport à tout ce que l'ennemi veut faire. Mais va quand même avec cette force et tu vas délivrer parce que je serai avec toi. Et n'est-ce pas moi qui t'envoie? Voilà, c'est ça la réponse. Et au verset 16, il est bien dit plus loin, « Je serai avec toi ». Et là, on voit, par exemple, l'ange de l'Éternel qui frappe dans Ésaïe 37, verset 36, le passage que je vous disais tout à l'heure, il frappe les Assyriens. Vous savez combien il y a eu de morts? Il y a eu 185 000 morts. Des guerriers, le matin, ils ont trouvé 185 000 guerriers à terre. Ce n'était pas l'armée du peuple d'Israël qui avait fait cela. C'était le Seigneur lui-même qui était venu abattre tous ses ennemis. Alléluia. Dieu fait des choses tellement rapidement, tellement glorieusement. Nous n'avons qu'à dire, Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et dans le psaume 3, verset 7, je ne vais pas prolonger trop, David dira, « Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. » Cela me rappelle mon papa quand il était à l'armée pendant la guerre. Eh bien, il y avait des ennemis en face et il les entendait parler. Il ne comprenait pas, bien sûr. Il entendait parler ses ennemis. Et il était chrétien et il a dit au Seigneur, « Tu m'as donné un verset. Ne crains pas tous ceux qui sont en face. Ils sont en grand nombre. Mais tu n'as rien à craindre. Je serai avec toi. » Il n'a eu aucun problème. Merci Seigneur. Alors que d'autres qui ne croyaient pas en Dieu sont tombés dans les mains de ses ennemis. Et il n'a pas su la suite. Oui, c'est vrai, des personnes qui nous assiègent de toutes parts, mais il ne faut pas les craindre. Alléluia. Dans Ésaïe 12, verset 2, « Voici, Dieu est ma délivrance. » Bon, dans le futur aussi, Dieu sera ma délivrance. « Je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. » On va me dire, il ne faut pas partir n'importe comment quand même. Hein. Non, je ne craindrai rien parce que l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé. Redisons-le, c'est lui qui m'a sauvé. Ah oui, il est le libérateur. Il reste le libérateur. Il nous a sauvés pour l'éternité. Et dans Actes 4, verset 13, c'est Pierre et Jean qui étonnaient les foules à cause de leur assurance. Ce n'étaient pas des gens qui avaient fait l'ENA, qui avaient fait autre chose, qui avaient fait toutes les autres écoles. Non, Pierre et Jean étonnaient les foules, ils étaient remplis d'assurance. Dieu les avait placé sur eux une assurance. C'était des hommes du peuple sans instruction, nous dit la parole de Dieu. Mais ils avaient la foi et la vie en eux. Alors le résultat est là, je termine par cela, comme en Esther chapitre 8, verset 8, Mardochée, qui avait échappé bien sûr à cette mort en hauteur, eh bien, fait écrire des lettres de délivrance pour le peuple juif, alors que c'est Haman qui a été pendu au bois. Eh oui, il a fait une œuvre qu'il avait trompée réellement. Et il a fait, donc Mardochée a fait écrire des lettres de délivrance pour le peuple juif. C'était son peuple. Il l'aimait, son peuple. Est-ce que nous aimons le peuple de Dieu? Je crois que oui, nous l'aimons parce que nous aimons ensemble le Seigneur et nous louons ensemble ce Dieu qui nous a rachetés. Jésus dit en Jean chapitre 11, verset 42, « Pour moi, je sais que tu m'exauces de temps en temps. » Ah, non, tu m'exauces toujours, toujours. Vous allez me dire, non, cette histoire, je n'y crois pas. Dieu ne m'exauce pas toujours. Eh bien, si, Dieu nous exauce toujours. Vous allez me dire, c'est ça, je peux vous dire que non, ce n'est pas vrai. J'ai demandé telle et telle chose, je n'ai pas eu de réponse. Eh bien, Dieu sait mieux que nous-mêmes comment répondre à notre prière. Et parfois, nous disons, Seigneur, si tu avais répondu tout de suite, est-ce que j'aurais pu faire telle et telle chose? Eh bien non, je n'aurais pas pu. Mais dans ta grande sagesse, tu savais qu'il fallait que je passe par tel ou tel problème, mais aussi telle et telle joie. Alléluia! Dieu ne nous donne pas que des problèmes. Nous ne sommes pas courbés par toutes sortes de problèmes, même si notre corps parfois se détruit un peu. Mais Seigneur, tu es là et c'est toi qui me bénis. Alors, je peux prolonger, simplement, nous allons prier ensemble. Seigneur, tu es merveilleux, et c'est toi que nous voulons, vers toi que nous voulons regarder, c'est toi que nous voulons voir dans nos propres vies. Nous ne sommes pas des surhommes, nous sommes des brebis que le berger veut conduire. Et Seigneur, les brebis ne sont pas forcément les animaux les plus intelligents, une chose est sûre, c'est que la brebis aime le berger et nous voulons t'aimer de plus en plus, te servir de la meilleure des façons possibles. Seigneur, nous voici pour te servir et c'est un engagement qui est important, un engagement sérieux que nous te disons maintenant. Seigneur, nous voulons te suivre. Ô Jésus, viens, bénis cette assemblée, bénis chacun de mes frères et sœurs. Tu vois, Seigneur, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont peut-être lassé de certaines choses, et toi, tu les connais, et je te demande de les bénir abondamment. Bénis cette ville de Neuchâtel. Que l'Esprit de Dieu se manifeste d'une façon glorieuse. Loué sois-tu, et bénis aussi mes frères et sœurs pendant toute cette semaine. Amen. Amen. Bien que le Seigneur vous bénisse, et vous réjouisse. Alléluia.